Ton par M pour Montréal, c'est 30 spectacles sur 4 jours qui se tiennent en parallèle dans plus de 15 salles de Montréal. Avec L.A.F., Milk & Bones, Robert Robert, Virginie B. et plus encore, c'est un marathon de musique qui vous attend du 15 au 18 novembre prochain. Un marathon de découvertes et de vrais sports. Entraînement recommandé, attache tes espadrilles, prépare ta liste de lecture et prévois ton parcours. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir tes spectacles préférés.
Mondial Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 $. Rendez-vous sur le site web www.mondialmontréal.com.
Le Artist Lab est de retour pour une troisième édition le 17 novembre prochain de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal.
Salut tout le monde, c'est Mireille pour un nouvel épisode de Dans les airs. Fait que, pour cet nouvel épisode, on a plein de nouvelles personnes qui vont nous accompagner pour le prochain épisode à venir aussi. C'est, en fait, on a une nouvelle équipe avec nous qui va se joindre à Dans les airs. Donc, je vais vous laisser vous présenter tranquillement, un à un. On a 4 nouvelles personnes avec nous. Qui veut se présenter en premier?
Allô? Bon, ben, on est la nouvelle équipe de Dans les airs. On est très contents d'être là.
Yeah.
Je m'appelle Azalée Pelletier. Puis, c'est mon nom. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, là.
Ben, t'es dans quel programme?
Oh my God. Oui, je suis en télévision en première année. Première session à l'UQAM. Tout est cool. On va voir la prochaine session.
All right. Moi, je m'appelle Nathaniel Brunner. Je serai votre animateur pour cet épisode-ci. J'étudie en journalisme et je passe maintenant la balle à mon autre collègue.
Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Lauriane Dufour et j'étudie aussi en bac en télévision avec Azalée.
Yeah.
Puis voilà, donc, autre animatrice pour aujourd'hui.
Et on a un autre animateur qui nous rejoint aujourd'hui.
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Non, on t'entend non. pas dans nos écouteurs, mais peut-être
moi,
que les auditeurs nous
entendent. Moi, je pense qu'on a un petit problème technique, guys. Ça va bien
ben,
aller.
Moi, c'est Nicolas Gendron. Je suis à la maîtrise en théâtre, deuxième année.
All right. Alors, je vais commencer ça avec le commencement, Initiation à la tranquillité, un petit texte que j'ai écrit par rapport au début de l'université. J'aimerais vous ramener à un moment qui m'obnubilait il y a quelques semaines et qui maintenant n'est qu'un souvenir d'un temps étrange où les codes de la vie ne s'appliquaient plus. J'ai commencé l'université cette semaine. En réalité, j'ai commencé mes initiations. Enfin! Ça faisait 3 semaines que je préparais le moment. Ben, que j'attendais, là. Que j'angoissais, surtout. C'est stressant, des innis. Bon, bien sûr, il y a la grande ville impressionnante pour le banlieusard que je suis. Il y a les nouvelles personnes qui nous accompagneront. Il y a les nouvelles personnes qui nous accompagneront pour les 3 prochaines années et avec qui tu t'efforces d'être toi-même, mais t'es un petit peu plus cool avec l'espoir que, à force que la vague lèche le rocher, elle façonne. Et il y a l'inconnu aussi, mais j'ai un autre secret. Mal gardé, il faut l'avouer, mais je ne le scande pas avec fierté. Je suis grand-papa. Ah ouais, avec mes 19 ans et des poussières, je suis grand-père. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Hein? Des mois de gestation, des années d'éducation, plusieurs temps de liberté et beaucoup, beaucoup de volonté pour tout garder. OK, là, j'arrête de nourrir l'ambiguïté. Je vais vous le dire, là, pour vrai. Je me dévoile. La mention grand-papa m'a été attribuée par une autre initiée qui m'a écouté raconter mes activités de soirée préférées. J'aime lire. J'aime ça la lumière tamisée. J'aime écouter le silence. Mettre de la guitare acoustique accompagnée d'un soupçon de pluie et de tonnerre ou du Jack Johnson. J'aime jouer aux jeux vidéo sans me soucier du restant de la vie. Les jeux sont comme plus calmes le soir que l'après-midi. Il y a quelque chose de relaxant à tout fermer et entendre que le silence. J'aime prendre une tisane de camomille avant d'aller me coucher, surtout après une grosse journée. J'aime ma tranquillité, mon petit bonheur relax. Et le bonheur, selon l'initiation, ça se passe dans un bar avec de la musique forte puis qui fait poutikou, poutikou, qui tape et qui tique, et des jeux d'alcool pour se donner une bonne raison de boire plus. Ça se passe en calant le plus de bière possible avec un téléphone à 5 cm de la face pour immortaliser la scène. Ça fait du bien aussi de rire avec ses amis, heureux de la disparition de la gêne et des autres choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes, en allant vivre des aventures loufoques composées d'actions qu'on n'aurait jamais osé faire sobre. Il y a des choses à vanter avec cette façon de s'amuser. C'est juste pas mon truc. Au fond, pour moi, un grand-papa, c'est rassurant, c'est sécurisant, ça sait, ça donne des bonbons. Quand tu vas pas bien, ça te sourit d'une manière qui te dit « je comprends, ça va aller ». Un grand-papa, pour moi, c'est un chevalier de l'ombre. Sa présence se remarque moins que son absence. Une puissance tranquille, prêt à aider, prêt à écouter, prêt à s'asseoir pour juste être. Bien sûr, il y a quelques grands-papas gâteux, mais pas mal plus de grands-papas gâteaux.
Hey, pour vrai, là, genre, ça m'a vraiment touché ton texte. Ben, ouais. Je trouve que je me suis identifiée à ça aussi. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Moi aussi, je suis une grand-mère, on va dire. Comme, pour vrai, moi, je suis allée au... Storytime? OK, moi, je suis allée aux
Unis. C'est ça qu'on veut.
Je suis allée aux Unis, mais pour vrai, j'y allais plus un peu parce que je trouvais que c'était comme une analyse sociologique. Je trouvais ça tellement intéressant de voir comment les gens agissent.
Ouais.
Puis les espèces de hiérarchies qu'il y avait dans les initiations,
comme
genre qui gérait quoi, qui gérait les... En tout cas, je trouvais ça vraiment fascinant. Fait que c'est plus pour ça que j'y allais, puis c'est quand même drôle quand ils pensent.
Ça manque de télé-réalité là, sur les initiations, il me semble.
Ouais,
il y aurait quoi à faire là-dessus.
Oui,
il y aurait des bons personnages aussi.
Oh my God,
oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est comme si tu nous révélais aujourd'hui que tu avais c'était comme un pouvoir Marvel de grand-papa, là, genre tu serais comme... Ça serait quoi ton costume, genre?
Oh my God, si j'avais un costume, ce serait genre un gros hood. C'est tout. Ce serait comfy.
Mais faut se méfier quand même de la phrase « un grand-papa, ça donne des bonbons ». Là.
Ah non? C'est pas tous les grands-papas qui donnent des bonbons. Il y a des grands-papas gâteux, pas des grands-papas gâteaux.
T'as raison.
Lauriane, de quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui?
Ben écoute, aujourd'hui justement, tu parles... d'initiation, d'entrée à l'université. Qui dit université veut dire qu'on est rendu des adultes, si on peut dire ça comme ça. Donc, on est à l'université, on travaille, on est autonome et responsable. En tout cas, pour la plupart, on essaye de l'être. Puis, quand on était petit, on avait tout, au moins une raison de pourquoi on avait hâte d'être adulte. Je sais pas pour vous, mais tu sais, pour certains, c'était la joie de partir en appartement. Pour d'autres, c'est le plaisir de conduire leur propre voiture. Mais moi, j'avais hâte de devenir adulte pour pouvoir m'acheter du Kraft Dinner.
Oh, wow!
Parce que, oui, du Kraft Dinner. Parce que mes parents voulaient pas m'en acheter quand j'étais jeune. Puis là, vous allez me dire que c'est la chose la moins adulte que j'aurais pu dire, mais bon, c'est vraiment ça.
Il n'y a pas d'âge pour être adulte.
Ouais, à mon âge, à mon opinion, c'est vraiment correct. Toutes les raisons sont bonnes pour vouloir être adulte.
Fait que... C'est ça. Pour moi, j'avais hâte de pouvoir m'acheter du Kraft Dinner. Puis en fait, je me rappelle même la première fois que j'ai mangé du Kraft Dinner de ma vie. Lauriane, elle a 14 ans. C'est la dernière semaine d'école. On est en juin. Il fait beau, il fait chaud. Je viens de terminer mon dernier examen de mathématiques de l'année. C'est l'heure du dîner, puis je rentre de l'école avec mon ami Novan Gargouille. On a faim, on a travaillé là, après l'examen, fait que... Puis elle regarde vite fait dans son garde-à-manger, puis elle ressort une petite boîte bleue en carton avec un logo orange fluo. Kraft Dinner. C'est ce que je peux lire sur la boîte. Puis évidemment, là, vous pensez, je vis pas dans une grotte. Là. J'ai déjà vu des annonces à la télé de Kraft Dinner, mais j'en avais juste jamais mangé jusqu'à mes 14 ans. Puis une fois que les pâtes sont cuites, mon amie rajoute du beurre, un peu de lait, et là, elle sort l'ingrédient magique. La fameuse poudre orange pétant, une couleur créée en laboratoire.
C'est limite... Clairement.
C'est limite si elle éclaire pas dans le noir. Puis elle mélange le tout jusqu'à ce que ce soit lisse et onctueux, puis elle me tend un bol. J'observe les petites nouilles allongées qui baignent dans cette sauce au fromage orange. Puis j'en prends une bouchée. Miam. En 5 minutes, j'avais tout dévoré. Puis à partir de ce moment-là, chaque fois que j'allais chez mon ami, on mangeait du Kraft Dinner.
Un petit rituel.
Puis ensuite, le pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on croit, connaître son origine. Mais laissez-moi vous raconter la petite histoire du Kraft Dinner. Alors, le Kraft Dinner, dans le fond, c'est l'invention de James Lewis Kraft, un Canadien qui a émigré aux États-Unis. Dans le fond, en 1915, il a ouvert sa première usine de fromage dans l'Illinois. Puis, il a mis au point un nouveau produit, un fromage transformé, pasteurisé, mais servi en boîte de conserve. Fait que c'est la première fois qu'on voyait ça. Puis, apparemment, la texture et le goût de ce fromage-là ressemble à celle du fromage orange que Kraft vend en tranches aujourd'hui. Puis, d'ailleurs, justement, il a obtenu un brevet pour ce procédé-là qui consiste à émulsifier le fromage. Puis, c'est sa nouvelle méthode qui permet de le pasteuriser, mais sans pour autant perdre la texture lorsque c'est soumis à des hautes températures. Puis, dans le fond, donc le fromage Kraft est arrivé sur les marchés canadiens en 1937, puis les États-Unis, puis ensuite a été commercialisé par la compagnie Kraft Food Group. Puis, en fait, ce fromage-là a commencé à être vraiment populaire lors de la Première Guerre mondiale parce que ce sont 6 millions de livres de fromage, de ce fromage-là, qui ont été vendus à l'armée américaine.
Ah, ouais.
Puis parce que c'était une arme bactériologique.
Ils se sont dit... Ils ont eu la bombe nucléaire. Dans le fond, c'était la première bombe nucléaire.
Orange.
L'agent orange.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, exactement. Donc, lors de la Première Guerre mondiale de 14-18. Puis, en fait, ce qui serait le vrai début du Kraft Dinner tel qu'on le connaît aujourd'hui, on le doit à l'initiative d'un vendeur de Saint-Louis au Missouri. Parce qu'il y aurait attaché, dans le fond, une boîte de pâte alimentaire avec un sachet de fromage pasteurisé de
Kraft. Vendeur? Tu veux dire un vendeur de... C'est un commis voyageur?
Comme
un trafiquant de fromage.
Exactement. Lui, il a flairé la bonne
pusher.
Idée. Dans le fond, il s'est dit, oui, c'est bon la petite poutre, mais il s'est dit, il faut vraiment le mettre tout de suite avec le produit pour en fait en créer, puis le vendre comme un produit unique. Mm-hmm. Fait que c'est le seul qui se fait comme ça. Puis ensuite, convaincu des épiciers de le vendre comme
ça. Dans le fond, c'est lui qui a créé le combo dans sa tête. Il a pas fait l'ingrédient, mais il a fait, ça c'est mon...
Exactement.
Ça, c'est ma création grâce à...
Okay. Puis dans les sources que j'avais lues, dans le fond, c'est comme si Kraft avait créé la pièce de voiture révolutionnaire, mais que la voiture venait pas avec. Fait que dans le fond, ce vendeur-là, il a comme mixé tout, fait que t'as la voiture
oh,
au complet.
Oui, c'est comme le créateur de la poutine qui a dit « on va mettre tout ça ensemble, ça va faire toute
exactement,
une belle poutine ».
Prêt à être mangé, prêt à être utilisé ouais. Tout de suite. Puis ensuite, il y a également le contexte historique qui était vraiment favorable puisque quand ça a été inventé, c'est ça, c'était la période de la Grande Dépression. Puis en fait, des boîtes de Kraft Dinner, dans le temps, ça se vendait 19 sous
ah ouais.
La boîte.
Ça, c'était cher, là.
Oh my God.
Ben, pour cette époque-là, puis dans c'était assez accessible puis abordable.
Ah ouais, okay.
pour tout le monde. Puis justement, dans ce contexte-là, où est-ce que gagner de l'argent était aussi difficile qu'en dépenser, bien, Kraft Dinner, c'était parfait, c'était facile puis accessible. Puis il y a également le fait que à cette époque-là, dans la plupart des foyers canadiens, on n'avait pas encore de réfrigérateur. Mm-hmm. Donc, le
ouais.
Fait que
ah,
on pouvait conserver ça pendant 10 mois sur une tablette, ça représentait un énorme avantage. Mais c'est vraiment durant la Deuxième Guerre mondiale que la popularité du produit a vraiment explosé. Parce que à cause des mesures de rationnement qui entraînaient des restrictions sur les fromages et les viandes, ben, un repas Kraft Dinner, c'était vraiment le repas parfait. On n'avait pas besoin, ça coûtait pas cher, on n'avait pas besoin de viande, puis ça comportait un repas. Puis il y a également le fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme les femmes étaient plus au foyer puisqu'elles devaient fournir...
Il n'y avait plus personne en cuisine!
À l'effort de guerre, exactement. Donc, on privilégiait les repas simples et rapides parce qu'on n'avait plus le temps de cuisiner. Les femmes n'étaient plus au foyer pour cuisiner.
OK, mais oui?
J'allais juste dire, des décennies plus tard, les mamans et les papas laissaient la boîte de Kraft Dinner à leurs enfants parce que c'était donc simple faire
ouais,
ça.
Moi, c'est ça que ma mère faisait. Là, du genre, dès qu'elle ne pouvait pas être là à la maison, il y avait la boîte de Kraft Dinner qui m'attendait
ouais,
quand j'en revenais de l'école.
Exactement.
Je tiens à dire aussi, c'est peut-être une question, s'il y a des auditeurs qui veulent me répondre aussi après, y a-tu déjà quelqu'un qui a mis du colorant alimentaire dans leur cravisinaire. Moi, c'est quelque chose que je tripais à faire quand j'étais plus petite.
Et
je
sais pas pourquoi. Assez dedans.
Non, c'est ça que j'allais dire. J'ai tellement bise, mais comme tu sais, moi, je m'amusais à faire genre du bleu, du vert, du rouge. Oh, genre, ah ouais, ouais, puis des fois, ça venait brun, on s'entend, mais
y a,
comme.
Il y a toutes sortes de faveurs. De flavor très, très français, mon enfant. De saveur maintenant, non?
Ah, Cheetos enflammé, c'est dégueulasse.
Cheetos enflammé.
Je l'ai essayé, mais genre, j'étais tellement excitée. Non, mais comme dans le sens épicé. Ben c'est oui, comme un feature avec genre Kraft Dinner puis Cheetos. Ouais. Ouais, vous avez peut-être déjà vu ça dans l'épicerie.
Oui.
J'ai osé, je n'oserai plus jamais.
Ah. Non, non, en vrai, avec le bon classique original Kraft Dinner, je sais qu'ils en font des extra crémeux aussi. Puis... Mais
ou
le
aux tomates.
Original, là, ouais, c'est ça.
Ah, ouais?
Ouais.
Non.
Mmh. Oui, oui,
au cornichon, ça serait bon, mais ça.
On peut envoyer l'idée, on peut envoyer.
Hey, mais moi, ma mère, qui est la plus grano, fait que, ils ont même réussi à avoir ma mère, parce qu'on s'entend qu'il doit avoir de la cochonnerie là-dedans. Hein. Ouais. Ben, elle rajoutait du thon, puis des légumes, puis là, pour elle, c'était un repas complet, puis moi, j'étais comme, hey boy.
Essaye pas de te mentir, c'est quand même...
Ça reste cordonné, mais...
Pour essayer de camoufler, c'est ça, là.
Ouais,
c'est
mais ça. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une part d'universel dans le Kraft Dinner, tu sais, ça a toujours été la nourriture de ceux qui avaient pas assez d'argent pour s'acheter de l'eau de bouffe, ça a toujours été la nourriture des gens qui avaient pas le temps de se faire autre chose.
Des étudiants.
Des étudiants, exactement.
C'est pour drôle, ça que ça nous représente assez, puis je pense qu'il y a plusieurs étudiants... que souvent, quand ils n'ont pas le temps, ils savent que c'est réconfortant, c'est bon, c'est rapide à faire. Fait qu'en général, c'est un repas de choix pour les étudiants. Puis, dans le fond, j'ai trouvé que seulement au Canada, on comptabilise 8 millions de dollars de vente de Kraft Dinner en 1939.
Oh my
puis
God!
Puis que c'est passé à 14 millions en 1945. Puis justement, durant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, un coupon alimentaire permettait d'acheter deux boîtes de Kraft Dinner. Fait que...
À 19 sous la boîte aussi, là, ça, pour avoir genre 4 millions, là, ça en faut beaucoup. Là.
Ouais, ça fait vraiment beaucoup de pâtes.
Oh my
fait
God!
On comprend que ça a vraiment, vraiment été populaire, puis ça l'est encore extrêmement.
Puis est-ce qu'on a les chiffres d'aujourd'hui, justement?
Pas d'aujourd'hui, mais mettons, pendant la guerre, ben on estime que c'est 50 millions de boîtes de Kraft Dinner qui ont été vendues juste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, en fait, un fait intéressant, justement, ben chaque semaine, les Canadiens achètent près de 1,7 million des 7 millions de boîtes vendues dans le monde.
Attends, wait. Attends, à chaque semaine?
À chaque semaine, les Canadiens, 1,7 million des 7 millions de boîtes vendues dans le monde.
Wow.
Fait qu'on tripe, nous, là. Poutine et Kraft Dinner.
Nous, là, on tripe. Ben, justement, le Canada détient alors le record mondial de consommation de Kraft Dinner en nombre de boîtes par personne.
Je sais pas si c'est déprimant ou vraiment cool, genre.
Je pense que c'est le genre d'affaire qui est un fun fact. Tu laisses ça, là.
Mais c'est genre, c'est un quart. C'est un quart des ventes, vient de calculer. Hein.
C'est exactement ça. Puis chaque personne, donc... au Canada, mange une moyenne de 3,2 boîtes de Kraft Dinner chaque année.
Ben non. Est-ce pas moi, là, ça m'inclut pas.
Ben c'est ça, il y en a qui compensent pour les autres, clairement, parce que moi, j'ai mangé ça une fois dans
clairement,
ma
je compense pour les autres.
T'as la version Cheetos, tu compenses, effectivement.
On a preuve. Puis justement, en fait, c'est 55% de plus que chez les Américains. Fait que les Canadiens, on est vraiment des tripeux de Kraft Dinner.
We've been crafted.
Exactement. Puis, avec autant de popularité, justement, le macaroni au fromage Kraft, le Kraft Dinner est considéré comme un plat national au Canada.
Oh non!
Ça, par contre... Mon Dieu!
Par qui t'as dit?
C'est vraiment considéré comme un plat national au Canada.
Ben voyons donc.
Wow.
Ouais.
Ah, puis pour les auditeurs aussi, à la fin de l'émission, s'ils veulent avoir plus d'informations, on va mettre tes liens puis tes sources aussi
exactement,
dans la description.
Fait, si vous voulez en apprendre plus sur le Kraft Dinner, je vais tout vous mettre ça.
Appelez-moi ou allez voir les sources.
Exactement. Puis justement, pour finir, ben le Kraft Dinner, c'est peu coûteux, c'est simple, c'est rapide, on le dit, c'est surtout réconfortant. Le Kraft Dinner, c'est le plat qui s'adapte le mieux à n'importe quelle situation. Tu viens de te faire laisser, t'as pas la force d'aller à l'épicerie et te cuisiner un gros repas, Kraft Dinner. Tellement. Tu rentres d'une soirée arrosée à 3h du matin, puis t'as une fringale, Kraft Dinner. C'est la première fois que tes parents te laissent seul à la maison avec ton petit frère pour souper, c'est simple.
Kraft Dinner. Est-ce qu'on peut parler des ramen à la prochaine émission? Parce que Mr. Noodle, là, je l'ai dans la tête aussi. Là.
Ah ouais. je me mets là-dessus.
All right, chroniqueuse culinaire.
La culture culinaire, c'est un art.
Ben oui,
c'est un art, définitivement. Et je t'entends parler de Kraft Dinner, Lauriane, et je peux pas m'empêcher de me souvenir de mon frère qui fait ses premières tentatives culinaires des macaronis jaunes radioactifs.
Un grand ou un petit frère?
Un grand frère.
Ah
un
ouais, fait que t'étais sa victime.
Oui, j'étais... Non, en fait, c'était sa propre victime. J'ai goûté les quelques premières fois, goûtait le carton, il oubliait le lait, c'était super lait.
Oh, wow, wow, wow.
J'en ai gardé un souvenir tellement vivant que n'importe quel craft dinner goûte un fragment de boîte de carton du UPS, même quand il réussit.
Oh, c'était très poétique, ça, j'aime ça.
Mais il reste quand même un certain amour derrière sa manière de préparer du craft dinner. Je me souviens d'une autre aventure culinaire qui a perpétré sur ma mère cette fois-ci. C'était le samedi matin, il était 10h, ma mère est lève tard de nature, elle était encore couchée. Pour les sauterelles supersoniques que nous étions, il était midi, on s'était levé à 5h du matin, on était ben trop étonce, tout de même. étrange moment de vie que ce moment où est-ce que tu peux pas t'empêcher d'avoir hâte que la journée commence. Il y a tellement de choses à explorer, à découvrir, à vivre. Je me demande quand est-ce que ça change? Quand est-ce que notre émerveillement prend le bord? En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je retourne à mon frère culinaire. Il a pris des pains pita. Il a fait des sandwichs vraiment pas sorciers. Là. De la mayo, de la moutarde, du jambon, du fromage, deux cornichons surettes sur le côté. C'est rien de weird, là. Mais après ça, il a eu un flash. Il s'est dit, OK, mais si on met le dessert avec le repas, on gagne du temps.
Wow.
Fait qu'il a pris un pot de Nutella.
Oh non, là.
Puis je l'ai
oh,
regardé non. dans les yeux. J'ai dit, Christophe, tu me le mettras on the side. Mais j'ai rien dit pour ma mère. Puis là, je me suis installé puis j'ai regardé la scène arriver. Puis je pense que c'est là que mon émerveillement a été fixé pour de bon parce que j'ai vu ma mère regarder dans les yeux pleins de Nutella ce sandwich puis dire, c'est bon, merci. Hey, de l'amour de mère, ça te fait aimer la vie pas à peu près. Si ma mère pouvait aimer à ce point-là mon frère pour sacrifier ses papilles hurlantes de terreur et de dégoût, alors je pouvais même relever quand je me tombais puis je me faisais mal. Je pouvais courir ou marcher tranquillement, aller à ma propre vitesse. Puis je pouvais tomber en amour avec tous ces moments qu'on est tellement à vivre sans le réaliser, sans l'apprécier plus. En tout cas, tout ça pour dire que j'aime bien ton sujet, Lauriane. Puis toi, Azali, de quoi est-ce que t'aimerais nous parler?
Ouais, avant, je voulais juste dire, moi aussi, genre, mes parents ne m'ont jamais fait manger de Kraft Dinner de ma vie. Oh. Comme chez nous, il n'y avait pas d'Oreo, il n'y avait pas de beurre de peanut Kraft, il n'y avait pas de plein d'affaires, là. Ouais. Fait que, comme, pour moi, le Kraft Dinner, c'était réservé à genre, quand tu vois des amis.
Exactement.
C'était vraiment exactement ça.
Il y avait Rachel jamais... Berry chez vous, c'était quoi?
Il n'y avait jamais un repas de
non,
coupable,
ben,
genre.
Écoute, j'habitais vraiment en région, il n'y avait pas ça, mais si j'étais en ville, ça aurait été ça, oui. Donc, moi, je voulais vous parler d'une pièce de théâtre que j'ai eu la chance d'aller voir la semaine passée. C'est la pièce « Je suis un produit » qui a été écrite et mise en scène par Simon Boudreau. C'est une pièce qui a été jouée par la compagnie de théâtre Les Simoniacs, qui a été fondée en 2005 à Montréal. Puis, c'est une troupe qui a, entre autres, une compagnie qui a, entre autres, fait la pièce Sauce Brune, qui avait vraiment fait parler d'elle, qui est super intéressante. Là.
Un des classiques du théâtre québécois. C'est une pièce où quasiment tous les verbes, tous les adjectifs, c'est des sacres.
Ouais.
Ah ouais.
Et ça se passe dans la cafétéria d'une école secondaire.
Ouais.
Fait qu'entre autres, on revisite le guide alimentaire canadien, puis c'est tous des employés. Tu sais, on parle de violence conjugale là-dedans, on parle de système d'éducation là-dedans, mais ça, c'est vraiment un classique. Là. Si vous avez à lire une pièce, là, vraiment, c'est à lire.
Mm-hmm. Fait que bref, ça c'est la plus récente pièce, Je suis un produit de cette compagnie de théâtre-là. D'ailleurs, il y a peut-être certains des auditeurs qui l'ont déjà vu parce qu'elle roule depuis 2021. Puis la tournée, entre guillemets, va finir bientôt, là, genre en 2023. Fait que si vous voulez aller voir ça, je vais vous dire les dates plus tard, donc vous devez écouter.
On peut aussi les mettre en lien dans la description,
oui,
il n'y a pas de problème.
Oui, on va aussi faire ça.
Parce que Instagram.
Parce que c'est gratuit, là, la tournée, en plus.
Ben, je pense bien, parce que moi, je l'ai vu gratuitement à Maison de la Culture,
dans le cadre
du
CAM en tournée, ça s'appelle.
Ouais, bon, ben c'est ça. Fait que,
un petit spectacle gratuit.
Donc, moi,
si
j'adore
les
choses gratuites.
Ouais. C'est encore possible, faut
exact.
Se dépêcher, mais c'est possible d'aller la voir.
Exact. Ben en fait, je peux tout de suite vous dire les dates là. Le samedi 11 novembre à la Maison de culture Montréal-Nord, le jeudi 23 novembre à la Maison de la culture de Mercier et le 2 décembre à la Maison de la culture de Hunsick. Sinon, il y a d'autres dates à Sherbrooke et Shawinigan, mais ça, vous irez voir
Les quand on retourne dans notre famille.
C'est ça, s'il y en a qui habitent à la Cité de l'énergie. donc, la pièce « Je suis un produit », ça parle de... Ben en fait, on suit un peu la vie de Jihan, qui est une immigrante marocaine qui arrive au Québec, puis qui n'arrive pas à se trouver un emploi. Après 2 ans, elle est encore en train de chercher, mais pourtant, c'est une femme très éduquée. Elle a quand même un doctorat en anthropologie, mais elle n'arrive pas à se trouver un job. Puis, c'est une femme qui est musulmane non voilée parce qu'elle dit que le voile, c'est comme contre ses valeurs. Mm-hmm. Mais un jour, elle décide de porter le voile dans une entrevue, puis elle se fait prendre pour la job. Oh. C'est là qu'on commence tout de suite à comprendre que l'entreprise qui l'a pris, une entreprise de marketing, de communication, tout ça, ils voulaient vraiment juste avoir une diversité culturelle au sein de leur équipe.
Cocher une case.
C'est ouais. ça, vraiment. Puis littéralement, quand ils font des stories, ils la mettent tout le temps. Puis comme ils veulent juste comme mettre en avant, « Ah, oh, on a une femme voilée dans notre équipe. » Genre, « Oh, on n'est pas juste des Blancs. »
Ils utilisent son image.
Vraiment,
c'est ça. On est inclusif, là, tu sais.
Exactement. Ouais. Fait que, puis ça, c'est clair en partant, là, qu'on comprend tout de suite que c'était ça les intentions du boss quand il l'a pris. Puis je pense qu'elle s'en rend un peu compte de plus en plus que la pièce avance. Ouais. Parce que c'est vraiment une pièce qui met en valeur un peu notre rapport par rapport à l'image dans la société, comment on perçoit les autres, puis comment on peut être parfois mis dans des causes. Par exemple, Jihan, femme musulmane, bon, ben ils ont comme fait femme musulmane voilée. T'sais, puis quand elle est sortie de cette cause-là, qu'elle a, comme par exemple, enlevé le voile, ben ça a mis les gens mal à l'aise. Les gens comprenaient pas, ils lui posaient des questions. « Ouais, mais t'es musulmane, t'as pas le voile, nanana. » Fait qu'il y a une scène super intéressante que on voit Jihan, les gens lui posent plein de questions, puis elle finit par mentir parce que c'est plus facile, parce que sinon les gens comprennent pas un peu son vécu, son passé. Fait qu'elle répond à des clichés, à place de dire qu'elle vient d'un petit village, elle dit qu'elle vient de Marrakech. À place de dire que blablabla, tu sais, elle se met vraiment à mentir parce que c'est plus facile.
Elle veut rentrer dans le moule, finalement.
Exactement.
Elle construire veut... une image.
Exactement. Fait qu'à la fin de la pièce, il y a eu un moment de médiation culturelle parce que, bon, pour cette compagnie de théâtre-là, c'est dans leur mandat qu'il y ait la médiation. Puis la comédienne et membre de la troupe, Catherine Ruel, nous disait que quand l'auteur a écrit la pièce, c'est ça, pour lui, la valeur numéro un ou le thème numéro un qu'il voulait parler, c'était vraiment notre rapport à l'image dans la société. Puis aussi, l'omniprésence du marketing, à quel point un peu tout est à vendre un peu. C'est pour ça que la pièce, c'est « Je suis un produit ». Il va même, à un moment donné, il y a un personnage qui va se comparer à du pain tranché, là, littéralement. Fait que, tu sais, c'est comme
ouais,
à quel point...
Il y a un partenariat avec une épicerie, hein, je pense.
C'est ça, c'est ça. Fait que, à quel point... Tout est comme un peu classifié ou tout est une affaire d'image.
Mais juste pour faire une petite parenthèse sur Ouda Riani, qui est la comédienne qui joue...
Jihan.
Oui, voilà. Ouda est une actrice marocaine très connue au Maroc. Mais quand elle est déménagée ici, sincèrement, elle est arrivée avant la vague de la diversité, justement,
ouais,
comme case à cocher. Elle a eu beaucoup de mal à se placer. Là, à un moment donné, il y a eu des stages.
Elle l'a vécu elle-même.
Oui.
Okay.
Ouais. Il y a eu des stages pour les actrices de la diversité. Là, elle est rentrée comme ça chez Ducep, mais comme employée, pas comme comédienne. Puis après ça, elle travaillait pour la ville de Montréal. Je connais un peu Ouda, c'est pour ça que je me permets de parler de ça, puis elle en parlerait elle-même. Et finalement, là, elle commence enfin à travailler à sa juste valeur, puis à sa pleine mesure, la pleine mesure de son talent.
Ouais.
Parce que là, oui, c'est une case à cocher, malheureusement, mais parce que les gens aussi réalisent que, bon, j'allais sacrer, mais elle a du talent.
Je pense qu'on
puis...
peut sacrer, mais pas trop.
Non, mais c'est Sauce Brune avec qui me mettait dans cet esprit-là. Là. mais c'est ça, elle a du talent. Fait qu'engageons-la, maudit.
Puis c'est la même chose que dans la pièce, le personnage, son personnage qu'elle joue. Ben, cette femme-là, elle est vraiment douée pour son travail. Là. En plus, tu sais, il aurait pu juste la prendre pour ça. Elle est super intelligente. Fait que c'est ça. Puis même dans la pièce, on rencontre aussi Jeff, qui est comme le boss de Jihan, qui est un homme vraiment excentrique, qui parle sans arrêt, mais qui écoute pas les autres, qui est vraiment tout le temps dans le superficiel, jamais dans les émotions, dans le vrai. Pour lui, il reste toujours en surface. Fait que c'est vraiment intéressant de voir un personnage comme ça qui clash un peu avec les autres. Puis le comédien qui l'interprétait, Éloi Archambaud-Douin, était vraiment excellent. Je trouve qu'il a vraiment, genre, volé le show, là. Même si, à la base, dans cette pièce-là, c'est Éric Bernier qui joue ce rôle-là, il a vraiment été très bon. Ben, d'ailleurs, tous les comédiens, je les ai trouvés très bons.
Ouais. Ben, tout le monde joue un seul rôle, hein, ou il y a plusieurs personnages, je me souviens plus.
Il joue plusieurs rôles. Tu sais, par exemple, au début, la plupart des comédiens jouent des personnes, des conseillers à l'emploi,
ah oui,
genre,
c'est vrai,
ou
ouais.
des
dans
choses
l'entrevue,
comme ça.
Dans l'entrevue, dans les entretiens
d'embauche. Exactement. Fait que c'est les cinq comédiens, mais c'est tout le temps les mêmes qui font comme un peu tous les rôles.
Puis, c'est eux qui font les décors aussi, là.
Exactement, c'est eux qui déplacent les décors. Décors qui sont super simples, là. C'est des tables qui roulent, puis des chaises, puis... Quand ils déplacent les décors, il y a tout le temps une mini scène entre deux scènes. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Il y a des transitions.
C'est ça, genre, des transitions. Okay. My God, ça paraît pas. J'ai étudié en théâtre.
Moi non plus.
Non, t'as dit télévision tantôt.
Ouais, mais OK, c'est que j'étais au cégep théâtre.
Tu nous as menti tout ce temps.
menti. Non, mais j'ai juste pas dit tout mon CV, on va dire. Fait que...
on va avoir d'autres émissions pour parler
exactement
de nos CV.
Exactement. Ben oui. Mais fait que, bref, c'est une pièce que j'ai beaucoup appréciée, mais encore, quand j'y repense, je me dis je suis peut-être un peu biaisée parce que, justement, quand j'étais au cégep en théâtre, on allait tout le temps voir des pièces. Fait que j'aimais vraiment ça. Puis là, on dirait que ça faisait longtemps que j'en avais vu une. Ouais. Fait qu'on dirait que peut-être, peu importe, ça aurait été quoi, j'aurais été comme « Yeah, le théâtre!
Ben » Mais c'est vrai, moi, ça fait ça avec les expos des fois. T'sais, moi, je suis artiste visuelle dans la vie aussi. Fait que quand ça fait un petit bout que j'ai pas été à une expo ou même juste au musée, même aux expositions permanentes, t'sais, il y a toujours une espèce de truc de fraîcheur où « Ah oui, c'est vrai, j'aime donc bien ça, faire ça. Pourquoi je vais... » C'est parce qu'il faut comme se déplacer physiquement. Puis on est tellement habitué à... consommer de la culture à travers nos écrans, qu'on dirait qu'il faut faire comme, même si c'est notre passion dans notre vie, il faut alimenter ça. Toujours, constamment. Puis aussi, il faut s'entourer de personnes aussi qui vont à ces événements-là. Sinon, on perd les habitudes. Je pense que je comprends full ton feeling de genre, hey, oui, mais dans le fond, j'aurais peut-être aimé n'importe quelle pièce, mais je pense que la pièce que t'as vue était bonne.
Oui, elle était super bonne, mais genre, à la fin, j'ai comme un peu pris conscience aussi de genre, « Ah, oh, faut que j'aille plus souvent au théâtre. » Comme j'avais juste gros sourire dans la face. Puis même si ça m'avait pris comme une heure et demie de transport en commun, j'étais vraiment contente. Là.
Mais si ça, c'est ton biais, moi, j'ai aucun problème.
Ouais, c'est...
Moi, je trouve que c'est pas mal... c'est un biais, au contraire, qui prouve que
t'as bien
ton bagage, là, finalement.
Ouais.
Puis...
Ouais.
Mais tu sais, sinon, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé vraiment une bonne pièce. Là. L'écriture, j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai trouvé ça... très comique, j'ai beaucoup ri, même si des fois on rit jaune un peu là, parce qu'on marche, c'est des problématiques un peu qu'on marche sur des œufs.
Est-ce que tu t'es senti visé aussi un peu des fois, tu sais, genre mettons, oh mon Dieu, je fais tellement ça, ou oh mon Dieu, oui, ça me concerne, comme parce que tu sais, le titre, je suis un produit, est-ce que c'est ça que je me demandais aussi tantôt, est-ce que ça aborde aussi un peu les réseaux sociaux, le phénomène d'influenceurs, influenceuses, ça, est-ce que il y a des parties dans la pièce qui vont plus parler aussi au public, aux individus autre que, admettons, les personnages principaux.
Oui, bien, ça, clairement, parce que il y a beaucoup, mettons, un support visuel derrière la scène entre les. Dans les entre. Comment t'as appelé ça? Les transitions, oui. Il est projeté tout le temps des stories de la compagnie de marketing. Fait que c'est tout le temps avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'eux, ils projettent. Puis, attends, c'est quoi déjà ta question?
Ma question, est-ce que la question des réseaux sociaux est abordée? Oui. Est-ce que, genre, le phénomène des influenceurs, influenceuses aussi est comme.
C'est ça. Puis,
ça fit,
il parle aussi un peu de la cancel culture parce qu'il y a un personnage qui est un espèce d'entrepreneur vraiment, genre, comme pas connu, cool, je sais pas comment dire. Puis, à un talk show, il dit quelque chose de raciste. Fait qu'il se fait comme un peu cancel. Fait qu'on voit un peu toute la. Puis, comment l'entreprise de marketing essaie de camoufler ça puis de dire, OK, mais il va s'excuser. Ah, mais s'il s'excuse, il fait la victime. Ah, mais on va dire d'abord que. Il est en couple, puis que c'est un gros changement pour lui. Ah, oh, les gens, ils vont avoir pitié de lui. T'sais, fait que là,
il est en couple avec ce qu'il dénonçait, là, quelque chose comme ça. Avec la culture qu'il dénonçait dans son propos raciste. Là,
Fait que c'est fou à quel point de voir comment tout peut être une image. T'sais. Au final, exemple, le gars là-dedans était quand même raciste, là, t'sais, l'entrepreneur qui a fait la joke. Mais l'entreprise de marketing est capable de tout comme camoufler ça puis de dire « Ah, mais non, il vit une... »
Il y en a qui gagnent leur vie comme ça.
Ben oui, effectivement. Ben oui.
Genre, ça, je trouve que ça amène une grande réflexion, cette pièce-là. Puis je trouve que ça désamorce des problématiques que c'est un peu comme tabou et tout parce qu'on en rit. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis c'est contemporain, ça parle de choses maintenant. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, justement. Ils se filment parfois, ils sont en Zoom sur scène.
En vrai Zoom ou genre fake Zoom?
Ben,
Et je veux le lien pour ces rencontres-là, ça va être drôle. T'imagines, t'as
arrivé pendant que tu fais son show.
Oui, c'est ça. J'avais pas le terme exact, mais oui, merci. Exactement, c'est comme on les voit projetés en arrière, puis c'est la caméra en direct.
Ah, OK. C'est pas un Instagram live, genre.
Non.
Okay.
Ça aurait été cool.
Oui, je me suis mal exprimée, mais. Fait qu'on voit vraiment tout ça, je trouvais ça intelligent. Puis la fin, c'est une espèce de...
Mais spoil pas, on peut pas...
Non, je vais pas vous la dire, je vais pas vous la dire. Inquiétez-vous pas, j'allais juste dire que je trouvais que c'était judicieux comme fin, c'était inattendu, j'ai beaucoup apprécié.
Ah,
ça nous fait réfléchir. Genre,
je vais juste dire deux mots peut-être sur Simon Boudreau, parce que ceux qui ont suivi beaucoup la Ligue nationale d'improvisation, c'est un des plus grands joueurs d'impro au Québec.
Ah oui?
Oui, donc c'est pour ça que tu sais, il y a un humour assez fin, assez... à la fois très très punché puis profond, pas juste superficiel. Autre Simonia qui est depuis peu le directeur artistique du Théâtre de l'Œil, qui est une compagnie de théâtre de marionnettes. La marionnette fait partie de sa pratique d'artiste depuis des années. Il avait créé un spectacle qui s'appelait D pour Dieu avec la marionnette. En tout cas, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller voir son travail, en effet. Puis je suis un produit, comme tu le dis, c'est à la fois très drôle et en même temps très très profond.
Oui, vraiment, 100%.
Puis ça, c'est avec la CAM, le Conseil des arts de Montréal, right?
Le CAM en tournée, oui.
Le CAM en tournée, hein?
En fait, c'est quand un spectacle est créé, un an ou deux plus tard, on peut appliquer avec son spectacle. Puis le spectacle est offert gratuitement à la population.
Moi, je participe à ça, je pense.
Oui, ça se peut. Ça se peut, les artistes visuels aussi.
Je vais peut-être en parler tant qu'à faire, parce que tu as dit la CAM, je fais ben oui, mon Dieu. Moi, j'ai un vernissage.
Le CAM.
J'ai un vernissage ce jeudi, en fait. Ah, et ben c'est grâce à la CAM, à la Maison de la Culture, Janine Souteau. Mm-hmm. On est à peu près une quinzaine d'artistes, puis c'est vraiment une exposition faite alentour par l'Édile Art Vivant, qui est un OBNL, qui a construit cette exposition-là. Il y a eu des résidences à Baie-Saint-Paul, il y a eu plein de choses aussi qui ont comme demandé de l'énergie de ce beau groupe d'artistes-là. Et puis voilà, c'est tout sur la thématique de l'eau, mais aussi sur la notion de la consommation du plastique avec l'eau.
Puis toi, comment tu l'as incarné?
Moi, j'ai fait deux toiles. Moi, dans le fond, dans ma pratique, je fais souvent des mains puis des portraits. Puis pendant la résidence à Baie-Saint-Paul, j'ai vraiment une amie qui est vraiment willing de de me suivre dans mes idées un peu de fou. J'ai collé des algues sur sa main, puis je l'ai plongée dans l'eau sur le bord de la plage à Baie-Saint-Paul, mais genre en novembre, là. C'était en novembre.
Oh boy.
Faisait tellement frais. Donc, j'ai fait une grosse
facture. C'était hier, là.
Non, ça, c'était l'année passée. Okay. Il y a ça un an. Puis là, la nouvelle de cette année, c'est sa main à elle, mais à Miami, dans l'eau de Miami pendant Art Basel. Fait que t'as comme le contraste un peu.
Ah ouais, cool.
Bref, si ça vous tente d'y aller, le
c'est
ça,
métro c'est Frontenac, hein?
Oui, juste à côté du métro Frontenac. Merci, la CAM.
Le CAM.
C'est là ou le?
C'est le Conseil des arts de Montréal.
J'avoue qu'on dit pas la conseil.
Non. Ouais, bon, on dit la conseillère, mais on dit le conseil.
J'ai mis Jen de le CAM.
Fais attention, tu vas perdre tes subs.
Non.
Mais Azalée, tu me fais penser à une histoire que j'ai déjà lue et que j'ai par hasard devant moi. Par hasard. C'est un vrai hasard, je te jure. Okay. Un matin, je voulais prendre un autre livre, le mettre dans mon sac pour petite lecture de métro, mais ça va changer. Bref, ça s'appelle La tradition de nos pères. À la mort d'un vieux roi, deux frères s'étant partagé un royaume et chacun l'avait administré à sa façon. L'aîné avait continué à le diriger selon la coutume de son père. Le cadet, au contraire, avait essayé de modifier ce qui lui paraissait injuste. Au bout d'une vingtaine d'années, ils s'invitèrent l'un et l'autre pour visiter leur royaume. À peine entré dans le pays de son frère, l'aîné dut bien reconnaître que les routes y semblaient mieux entretenues, l'administration plus efficace, les demeures plus pimpantes et les gens plus joyeux. « Comment as-tu fait ?» lui demanda-t-il. « On dirait que, dans ton royaume, les hommes travaillent deux fois plus que par chez nous. Par quel miracle y es-tu parvenu ?»« C'est pas qu'ils travaillent deux fois plus, mais c'est qu'ici, hommes et femmes s'entraident et se partagent les mêmes tâches. Dès le plus jeune âge, les femmes comme les garçons vont à l'école pour étudier. Et nous avons ici des femmes docteurs, architectes ou juristes. »« Comment ? Des femmes médecins et juristes ? Elles ne restent donc pas à la maison pour servir leur mari ?»« Ben non !» répliquait le cadet. « Et certains de mes ministres sont des femmes. » L'aîné trouva cela fort extraordinaire et merveilleux. Mais pourtant, quand il rentra chez lui, il décida qu'il n'allait rien en changer. Tant de bouleversements l'inquiétaient. « Ma foi, se dit-il, mes successeurs verront bien. Mais pour ma part, je ne changerai rien à la tradition de nos pères. » Est-ce que vous pensez qu'on devrait toujours
suivre?
C'est
normalement une belle bite littéraire. Est-ce que tu peux donner le titre du livre?
Absolument. Le livre s'appelle « Les philofables pour vivre ensemble » de Michel Picmal. C'est des courtes histoires, petites fables, petits contes, avec toujours une petite twist réflexive.
T'étudies en quoi déjà, Nathalie?
Moi, j'étudie en journalisme, mais j'ai un fou parcours.
Ouais. Ben, on va mettre la source ou le lien
absolument.
De ta lecture.
Puis,
dans la
attendez-vous à entendre beaucoup de philofables.
Yeah, j'aime ça. On voulait parler aussi de cinéma avant qu'on... Là, je vois que... Hey, gars, je suis vraiment contente, je dois vous dire. Là, c'est vraiment le fun comme dynamique, comme premier épisode. Là, puis j'espère que les auditeurs aussi trippent avec nous. Le temps passe vite, fait que je pense que c'est bon signe.
Oui.
Mais
c'est
avant tout... C'est ça, avant toute chose. Tant mieux.
On slay.
Avant toute chose... Slay, girl. Avant toute chose, je pense qu'on voulait parler de cinéma.
Absolument.
Puis je vais m'assurer qu'on aille le temps de le faire.
Ben oui, t'as bien raison. Merci de me ramener.
Oui, ben... allô, c'est Nicolas. Je suis journaliste de cinéma depuis 17 ans dans une revue qui s'appelle Cinébule. Et à Cinébule, on présente le cinéma d'auteur d'abord et avant tout. Donc, on a une belle place au cinéma québécois. Moi, je suis un observateur du cinéma québécois depuis longtemps. J'ai gagné un quiz télévisé sur le cinéma québécois.
Ah, c'est quoi le nom du quiz?
Il y a 16 ans, qui
c'est
s'appelait Tous pour un.
Eh, pour vrai?
Ouais.
Non, animé par, ramassé là?
Animé par Francis Redé.
How?
Ah, oh, ben, je me suis inscrit, puis c'est moi qui ont choisi.
T'as-tu gagné?
J'ai gagné des sous. Et...
Combien? On peut... Non, t'es pas obligé de dire, excuse-moi, excuse-moi. Okay.
On en parlera hors d'onde, mais j'ai été 2 heures à la télévision d'État en direct,
Damn.
Justement.
Wow.
Parce que les gens pouvaient appeler pour t'aider là quand t'étais dans le pétrin, puis j'en ai eu besoin. En tout cas, tout ça pour dire que le cinéma québécois, je l'ai tatoué sur le cœur, on pourrait dire ça, même si j'ai aucun tatou sur le corps. Et cet automne, je dois dire qu'il y a pour moi une ébullition, une effervescence réelle, non seulement artistiquement, mais aussi dans les salles. Moi, je fréquente beaucoup le cinéma Beaubien, je fréquente aussi d'autres cinémas comme la Cinémathèque québécoise, et ça se sent dans la salle et au guichet que le public est heureux, qu'il y ait autant de complémentarité, entre autres dans les genres des films qu'on présente. Il y a aussi plusieurs films qui ont été primés, qui ont eu beaucoup d'écho dans des festivals comme Cannes, comme Venise, comme Toronto, le film qui m'a lancé ma saison, c'est Richelieu, de Pierre-Philippe Chevigny. Richelieu, c'est l'histoire d'une traductrice québéco-guatémaltèque, comme moi. Donc, c'est pour ça que ça m'a atteint autant.
Ça t'a parlé.
Oui, et puis la comédienne est aussi québéco-guatémaltèque, Ariane Castellanos. Donc, elle a mis beaucoup d'elle-même. Elle et moi, on a un projet, d'ailleurs, théâtral sur le Guatemala. Tout ça pour dire que c'est un film dont j'entendais parler personnellement depuis 2 ans. Donc, je l'attendais.
T'avais hâte, là.
C'est un long métrage.
Oui, j'ai hâte. C'est un long métrage. Okay. C'est le premier long métrage de Pierre-Philippe Chevigny. Le film a remporté plein de prix dans les festivals cet automne, autant pour le jeu d'Ariane que pour la réalisation, que pour le scénario. Et c'est l'histoire d'une usine de transformation agroalimentaire de maïs. Et la quasi-totalité des employés sont guatémaltèques.
Au Canada donc, ou au Guatemala?
Au Québec. Okay. Ça se passe à Richelieu, comme le titre.
Ah, makes sense.
Donc, en Montérégie. Et il y a Marc-André Grondin qui joue le responsable de l'usine, qui est un peu pieds et poings liés avec les big boss qui, eux, sont en France, je crois. Donc, ça montre tout le système d'exploitation qui n'est pas seulement à sens unique. C'est pas juste le nord vers le sud, c'est aussi le sud vers le sud. On le voit à un moment donné dans le film. Et j'ai ressenti dans ma chair là, l'injustice. C'est vraiment un film... Pour moi, c'est un thriller sociopolitique quelque part entre Souterrain de Sophie Dupuis qui se passait dans les mines, hein, un film québécois dans les mines en Abitibi, et Prisoners de Denis Villeneuve pour la tension là, vraiment continue dans le film. Donc, c'est un aspect vraiment, une qualité documentaire dans ce film-là. Fait que ça, c'est sorti le 1er septembre au moment de la fête du travail, puis ça a lancé pour moi la saison du cinéma québécois. Alors, ensuite de ça, il y a eu Solo, un film sur l'univers de la drague.
J'en ai entendu parler de ça.
De Sophie Dupuis, justement, la réalisatrice de Souterrain, et c'est avec Théodore Pellerin et Félix Marito, qui est un acteur français qu'on avait vu dans 120 battements par minute, entre autres, un film sur la crise du sida en France. Et Solo, j'en suis pas revenu qu'elle ait réussi à faire un film classé général avec l'univers de la drague et une relation d'amour toxique. C'est quand même ça, le film. Ouais. Donc, vous pouvez
Ça aurait pas dû être général? Excuse-moi, je te coupe, mais pourquoi ça aurait pas dû être général?
Il aurait pu y avoir des scènes de sexe, il aurait pu y avoir des scènes de drogue, il aurait pu y avoir... Mais elle a réussi à... C'est probablement pas volontaire, là.
Oui, oui.
Je pense pas qu'elle a voulu contourner la censure, ou c'est même pas de la censure, c'est le bureau du cinéma qui décide... mais tu sais, dans un autre...
C'est pour ça que je demande, il y a une espèce de stigma alentour du drague, ou est-ce que la drague, c'est quelque chose de...
Oui.
Directement sexuel, mais ce n'est pas, en fait, c'est de l'art de performance. Donc, c'est pour
ça
que je pose la question.
Et dans le film, sincèrement, c'est comme si on assistait au futur de la drague au Québec, tellement les numéros sont sacoches, les chorégraphies, les costumes, la musique.
Y a-t-il des dragues qu'on connaît dedans?
Ben, il y a entre autres Tracy Trash qui joue un autre personnage, Marc-André Leclerc. Mais sinon, c'est beaucoup des interprètes queer qui jouent les dragues. Il y a d'autres petites apparitions, là, je crois, là, mais...
Faut vraiment j'allais voir.
Ah oui, c'est vraiment un film à voir. Simple comme Sylvain de Monia Chokri, qui était à Cannes le printemps dernier, qui approche déjà le million au box-office. C'est un film plein d'esprit sur une relation d'amour. Donc, sur papier, on dirait que c'est un film comme on en a vu plein. Mais quand on voit la réalisation de Monia Chokri, comme dans Babysitter, ou comme dans La femme de mon frère, c'est toujours cette réalisation-là, très deuxième degré, avec toujours un petit clin d'œil en coin et beaucoup d'esprit, hein, ce que les Anglais appellent the wit. Ça, il y en a beaucoup dans Simple comme Sylvain, avec Pierre-Yves Cardinal, qui est un acteur qu'on voit trop peu au cinéma, qui est souvent, j'allais dire, cantonné dans des téléromans, je devrais peut-être pas dire ça, mais qui est associé plus à l'univers télévisuel. On l'avait vu dans Tom à la ferme, entre autres. Mais dans ce film-là, il est juste parfait pour le rôle. Il y a bien sûr Magali Lépine-Blondeau, Marie-Ginette Gay, qui est super juste, comme toujours, comédienne de qu'on voit souvent en rôle de soutien, qui joue la mère dans Discussion avec mes parents, comédienne de grand talent sur les scènes de théâtre et de plus en plus sur nos écrans pour notre plus grand plaisir. Testament de Denis Arcand, un réalisateur de octogénaire qui nous arrive avec...
Pour vrai, je savais pas qu'il faisait encore des films.
Ben oui, bien sûr. C'est le film avec Marie-Mé en plus.
Non.
Testament, oui, Rémi Girard, Sophie Lorrain et Marie-Mé qui est sur
Girard
l'affiche.
Marie-Mé, OK.
Oui, mais entre vous et moi, là, Marie-Mé, là, elle devrait pas apparaître en troisième lieu sur l'affiche. On la voit, je pense, 6 minutes 30 secondes dans le film. Donc, c'est plus un truc de marketing.
Ah,
là,
je comprends. Comme une tête. C'est l'image, c'est
ouais,
ça.
Oui, voilà.
Je suis un produit.
Elle est un produit, elle est un produit. Malheureusement ou heureusement, tout est relatif. Mais c'est un film, comme toujours dans les films d'Arcand des 10-15 dernières années, avec le bottin de l'UDA dans les A, là, vous en voulez des A, vous en voyez. Ils viennent tous faire des apparitions, des caméos de 30 secondes, de 1 minute 15, de 2 minutes. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que j'ai été agréablement surpris. J'ai vu ça ailleurs dans les critiques, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est, selon moi, le meilleur film d'Arcand depuis Les Invasions barbares.
Ah, oh, mon Dieu, c'est un gros statement, ça.
Ben, c'est, moi, je trouvais que... Les scénarios étaient un petit peu trop surlignés là, entre Les Invasions barbares et ce film-ci, Testament. Mmh. C'est encore une fois très gros. Les ficelles sont grosses. Il y a des gens qui comparent ça à des sketchs de Bye Bye. Je peux comprendre pourquoi.
Ah, OK, c'est vraiment comme en bits, là, genre... En...
Oui, ah, ça, c'est des sketchs. C'est sûr qu'il y a des... Il y a une histoire continue quand même, mais... tu sais, Guylaine Tremblay, elle a son numéro comique.
Ah, OK, c'est un peu comme Movie 43, je sais pas si t'as vu ça.
Oui, oui,
ça
oui,
fait très longtemps, mais en plus, je l'ai réécouté hier, c'est pour ça que je dis ça, là.
Okay,
c'est vraiment en mode, là, il y a comme, oui, il y a une ligne en dessous, mais vraiment, il y a des sketchs en haut qui
suivent. C'est comme sa façon de dénoncer le plus d'affaires possible, on dirait.
Ouais, OK.
Puis, en même temps, c'est un film qui, pour moi, a le pouvoir de réconcilier les générations, parce qu'il souligne les fossés générationnels. On parle justement de cancel culture, c'est au cœur du film, parce que dans un foyer de personnes âgées, il y a une œuvre qui dépeint des communautés autochtones de façon disgracieuse, semble-t-il, selon certains manifestants. Et là, il y a des manifestants qui viennent camper devant le foyer, et la directrice du centre, Sophie Lorrain, se retrouve empêtrée dans une crise politique, bien sûr, et médiatique. Mmh. Évidemment, hein, parce que encore une fois, le message est détourné, si on veut. Après ça, il y a de tout cet automne. Il y a un film pour enfants, La Légende du Papillon. Il y a le film Les Jours Heureux de Chloé Robichaud, qui a eu les concours de Yannick Nézet-Séguin, parce que c'est l'histoire d'une chef d'orchestre. Il y a aussi Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Ça, c'est le premier long métrage de Ariane Louis XVI. Et sincèrement, c'est un petit bonbon acidulé. Si vous aimez les films de vampires et si vous aimez les comédies, c'est vraiment super parce que c'est un coming of age en même temps qu'un film de vampire. C'est puis en étant moins souligné que les films Carmina à l'époque que le cinéma
vrai,
québécois.
Carmina
1 et 2.
Ça fait combien de temps ça, Carmina?
Ça fait une bonne vingtaine d'années.
Est-ce que vous savez de quoi qu'on parle, les
Absolument
gens?
Absolument pas.
Non, c'est
ouais,
ça.
Non, c'est ça.
Les deux plus vieux dans la gang. Carmina, c'était comme des films en mode vampire humoristique
ouais,
québécois.
Avec Yves Pépeltier, Gilda ouais. Roy et puis Isabelle Cyr qui jouait Carmina. C'était quand même bien fait, mais tu sais ça a mal vieilli, c'est sûr.
Je sais pas, faudrait le regarder pour voir comment
ça. On serait dû pour un Carmina 3, mais ouais. ça cette étoffe là vampire humaniste, mais avec plus de je veux pas comparer à tout prix, mais avec plus de modernité finalement.
Okay,
c'est un film de son temps. La direction photo, la direction artistique sont vraiment à couper le souffle. Fait que ça, c'est toute l'effervescence qu'il y a eu, mais en plus de ça, il y en a toute une qui s'en vient, bien sûr, hein?
Oui.
Parce que l'automne, c'est la saison des prix, mais c'est aussi avec Noël, la saison des films
qui font,
qui font du bien, etc. Le gala du cinéma québécois s'en vient au mois de décembre avec Jay Dutemple comme animateur cette année.
Pour vrai?
Oui, c'est lui qui reprend le flambeau. Il y a eu une année,
j'aime comme ça, que ce soit lui.
Ça tombe à nouveau également, au poste nouveau, au lieu d'être à Radio-Canada. Ah. Radio-Canada s'est désengagé. Moi, je trouve ça très triste, mais bon, c'est notre diffuseur national qui se désengage de la défense du cinéma québécois.
Mais ils n'ont pas eu beaucoup de coupures aussi, je pense, à cause de ça.
Là, ça, c'est TVA, là, récemment.
TVA, mais Radio-Can aussi.
Radio-Can aussi. Toujours est-il que cet automne, dans le cinéma international, on va voir Joaquin Phoenix en Napoléon. On va voir Timothée Chalamet en Willy Wonka. Ooh. On va voir des remakes ou des suites de Hunger Games, de La couleur pourpre. Il y en aura pour tous les goûts, bien sûr, des blockbusters. Mais au cinéma québécois, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura, entre autres, le documentaire L'océan vu du cœur, avec la participation spéciale du regretté Hubert Reeves. Hein, ah. Il y avait eu l'océan vu des étoiles, je crois, au vu du ciel, si ma mémoire est bonne. Et là, c'est un peu la suite, l'océan vu du cœur, donc avec toute la vie sous-marine, mais avec la pensée de ce grand philosophe astrophysicien qui était Hubert Reeves. Ça sort ce vendredi, de même que le film pour ados sur l'adolescence de Henri Bernadet, qui s'appelle Les rayons gamma. Henri Bernadet, ça, c'est le co-réalisateur du film culte À l'ouest de Pluton, qui était sorti il y a peut-être 8-10 ans au cinéma québécois, qui était co-réalisé par Myriam Véro. Donc ça, c'est, ça vaut le détour.
Est-ce que ça sort en ligne?
Non,
aussi,
ça sort en salle.
C'est seulement cinéma. OK, parfait.
Ça sort en salle. Parfait. Ensuite de ça, le 24 novembre, on a l'adaptation très attendue du roman de Kim Thuy, Rue. Donc ça risque de faire beaucoup d'écho à la fois au box-office et dans les médias. C'est entre autres avec Karine Vanas, si ma mémoire est bonne, et Patrice Robitaille. Et on finit ça le 22 décembre avec un film de Noël. Mais cette année, c'est moins grand public. Moins tête d'affiche que l'année passée avec 23 décembre. Et là, c'est le film Sapin. Et c'est avec la valeur montante Étienne Gallois, qui est un gars de Latuc en Mauricie, qui se ramasse pour payer ses dettes à aller vendre des sapins à Brooklyn, à New York.
Why?
Why? Ben, mine de rien, il y a beaucoup de Québécois qui font ça, d'aller vendre des sapins.
À Brooklyn.
Et c'est inspiré, je crois, d'une partie de la vie de soit du co-scénariste, soit du réalisateur.
J'avoue qu'on n'y pense pas le reste de l'année, mais tu sais, je sais pas si vous faites ça, si vous allez encore acheter votre sapin comme à la station de métro à côté de chez vous, mais à chaque année, je suis comme, c'est quoi leur vie? Genre, je veux tout savoir, mais le reste de l'année, on y pense plus. On achète des sapins, puis après, bye, tu sais.
Mais souvent, ce monde-là, ils vont les chercher longtemps en avance, puis il y en a qui vont les chercher aux États-Unis pour les revendre ici.
Oh, ouais. Voyons, le gaz à effet de serre, ça marche pas, là.
Ouais,
on a tellement de sapins.
New York, c'est pas...
OK, mais New York, OK. Je pense que ici, genre, tu disais, non.
Mais, j'ai oublié un dernier film, puis lui, il est encore à l'affiche, mais qui est sorti il y a une semaine à peu près, qui s'appelle Le 8e étage. Ça, c'est un film du cinéaste québéco-cubain Pedro Ruiz, et c'est une docu-fiction. Ça, c'est un genre qu'on voit peu souvent au cinéma, et c'est inspiré du vécu de Jacques Lanctot, qui était un ex-membre du Front de libération du Québec et qui a été en exil à Cuba dans les années 70. Alors, c'est inspiré de sa vie et c'est Martin Dubreuil, sans doute le comédien le plus utilisé dans le cinéma indépendant au Québec, qui joue un peu l'alter ego, si on veut, de Jacques Lanctot. Ça, c'est encore à l'affiche quelques jours à la Cinémathèque québécoise. Fait que vous voyez, il y en a pas mal pour tous les goûts
ça
cet automne.
Ça donne envie, en tout cas.
Ça donne envie. Et puis, le gala, malheureusement, au mois de décembre, témoignera pas de cette effervescence-là de l'automne.
Pourquoi?
Parce que vu qu'il a été déplacé, le gala arrête en 1er septembre. C'est-à-dire, il va considérer les films qui sont sortis avant le 1er septembre.
Les films qui ne sont pas pris en considération...
Ils vont être en considération l'année prochaine.
Au prochain, okay,
mais c'est poche!
Oui, mais on est tous décalés. À un moment donné, ils vont comprendre puis ils vont ramener ça en février,
mars.
C'est pas bon
pour le marketing genre des films en question.
C'est pas bon, il faudra en parler à Simon Boudreau. Ouais.
On fait une plainte.
Non. Ouais. j'ai déjà fait une lettre ouverte là-dessus il y a 7 ans, ça n'a rien donné. Oh, mais on en reparle.
On la republie. Guys, merci beaucoup. Est-ce que ça vous tente comme de finir l'émission en mode commentaire? Comment vous sentez? Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Vos peurs?
On est lundi.
Ils vont pas nous entendre avant lundi prochain. Fait que on peut parler de qu'est-ce qu'on est prévu.
Okay.
Ouais. Qui veut commencer? Silence. Moi, j'ai mon vernissage jeudi. C'est là que je vais aller.
Oui. À quelle heure jeudi déjà?
C'est de 5h à 9h, je crois bien, à la maison. Janine Suto. Sinon aussi, il y a M pour Montréal qui commence. Moi, en tant que directrice des coms aussi, ici, je vais souvent à des shows. parce que j'ai des partenariats et tout et tout. Ouais. Donc, je vais aussi aller voir, commencer à faire ça.
M pour Montréal, c'est quoi déjà?
M pour Montréal, c'est un gros festival. C'est comme une espèce de grosse vitrine pour les bands émergents et professionnels aussi. Okay, fait que t'as comme des shows un peu partout dans la ville. Je vais être capable de vous donner un petit peu plus de détails la semaine prochaine. Mais vraiment, là, ça va commencer en fin de semaine, je crois. Et ça va être très excitant. J'ai hâte de vous en parler. Yeah. Voilà.
Toi, Nicolas?
Moi, pour ma part, j'ai la chance d'être sur le jury des courts-métrages au Festival Cinémania, ouais, qui célèbre sa 29e édition déjà. C'est un festival qui avait été lancé essentiellement pour faire découvrir le cinéma francophone au public anglophone. Donc, tous les films sont sous-titrés en anglais. Mais depuis, ça a vraiment évolué, c'est-à-dire que c'est pas juste les films français. Il y a aussi les films suisses, les films belges, les films québécois, les films africains. Donc, la francophonie, ça ratisse large, puis Cinémania embrasse ça de plus en plus. Donc, ouais, il me reste quelques courts-métrages à attraper pour faire ma job de juré cette semaine. Sinon, ce soir, je vais voir Nzinga, la première au théâtre d'aujourd'hui. Une création sur l'ancêtre d'une des autrices, Tatiana Nzinga Botao, donc qui était une reine, la reine Nzinga. Donc j'ai hâte de découvrir le passé, que dis-je, l'histoire de son ancêtre ce soir au théâtre d'aujourd'hui.
Ça a l'air bien cool. Et toi, Lauriane?
Moi...
Vous n'êtes pas obligé de parler de votre fin de semaine, là. Genre.
C'est ça, à vous entendre parler. Je pense que pour une fois, j'ai pas grand-chose dans la fin de semaine qui s'en vient.
C'est bien. Cuisiner.
Cuisiner, autre chose.
Faire des recherches et ramen.
Mais ça me donne envie d'aller voir des films québécois, des pièces de théâtre, à vous entendre parler. Ouais. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que je vais regarder tout ça de mon bord.
Ben, c'est vrai. Moi aussi, je pense que mes tantes... Encore histoire personnelle, mais mes tantes s'en viennent chez moi cette semaine, puis je pense qu'on va aller voir justement.
Ils viennent dormir chez vous?
Ben en fait c'est que c'est chez eux, mais je leur loue. Ok, là, je sais pas pourquoi.
Mais j'aime ça, je veux tout savoir. Tes tantes qui viennent chez vous?
Ben en fait c'est ça, c'est parce que c'est chez eux, mais moi je le loue parce que eux ils habitent à Prévost.
Got it.
Mais normalement, mais ils sont un peu à Montréal. En tout cas, fait que
on les salue.
Oui, bonjour Émilie et Chantal. Donc, on va aller voir probablement des films de justement Cinémania. Il faut juste que j'ai pris le petit livret. Il faut juste que je démêle qu'est-ce qui est quand. Là.
Puis aussi, là, on oublie que comme étudiant, on a accès à des rabais, hein, beaucoup de rabais en culture, mais en cinéma aussi.
Si des fois vous voulez des billets gratos, Choc a souvent des partenariats, comme là on a un partenariat avec Cinémania. Allez voir notre Instagram, puis on va partir une billetterie, puis c'est pour les étudiants et les bénévoles aussi.
Intéressant.
C'est-tu 50% ou c'est gratuit?
Gratuit. Mais il faut faire vite parce que c'est premier arrivé, premier servi. C'est pas tous les partenariats. Ça arrive.
Moi, les choses gratuites dans la vie, là, les festivals ramen, j'ai attendu 2 heures dans le froid et la pluie dehors pour avoir mes ramen gratuites. Je vous le dis, moi, les choses gratuites, ça me parle.
Azalée est willing de souffrir pour les choses gratuites.
Oh
c'est
oui. Non, mais après, tu te sens comme content. Tu sais, t'as comme... T'as pas te crosser le système, là, mais genre... Tu sais, t'as comme...
Mais non.
Côté rebelle,
justement, on paye pour pour les conseils des arts, là. Faut bien en profiter.
T'as raison. Je mérite des choses gratuites.
Mais aussi, je trouve que c'est important, justement, de prendre le temps. Puis avec toute, justement, la pandémie qu'il y a eu, puis tout ça, on était beaucoup enfermés chez soi. Ouais. Puis maintenant, j'ai l'impression que... Justement, du côté de la culture, ça revit. Fait que ce soit les films, le théâtre, les sorties, les expositions, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns ou qui ont peut-être perdu l'habitude de sortir puis d'y aller. Puis
mais il y a aussi, faut faire attention avec le FOMO toxique aussi. Moi, je suis comme souvent victime du FOMO toxique où est-ce que je m'épuise puis je me sens mal parce que je vais manquer genre un événement ça va.
Au-delà du FOMO, c'est comme le plaisir d'être une foule ensemble.
Exactement.
Ouais, de sentir une foule qui rit ensemble, une foule qui pleure ensemble.
Comme une communion.
Un frisson. Il y a quelque chose qui traverse, là, qui circule. Puis
on
n'est
plus caché en arrière de nos écrans. Là. On est genre tout le monde ensemble puis on vit la même chose.
Ben là, toi, tu dis ça puis t'es caché derrière un écran.
C'est pas de la magie. Les gens, ils savent pas ça.
On n'est pas filmé en ce moment.
Non, c'est pas un live filmé. Ben, si vous voulez que vous aimeriez ça nous voir filmer la prochaine fois, ben écrivez-nous.
puis mes habitudes de grand-père, j'aime ça rester chez nous, j'aime ça rester tranquille. J'ai une semaine de fou, fait que là, la semaine prochaine, je suis relax, je suis tranquille, mais faut dire, ça vaut la peine de sortir. Ça ne tente pas toujours d'arrêter ce qu'on fait puis de sortir de chez nous puis de faire le trajet. Mais une fois qu'on est là, hey, on est heureux puis ça fait du bien. Fait que si jamais ça vous tente d'aller voir une pièce de théâtre, faites le petit effort. Allez-y. Ça vaut la peine.
Hey guys, merci beaucoup pour cette première émission. Chers auditeurs, n'hésitez pas aussi à suivre notre nouvel Instagram. C'est Dans les Arts Podcast sur Instagram. Si vous avez des commentaires...
On va aller suivre nous-mêmes.
Oui, mais si vous avez des commentaires, écrivez-nous. C'est vraiment le début d'une belle aventure, puis je vous remercie d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine!